Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 25 novembre 2022. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Oui, aujourd'hui, 25 novembre, c'est le Black Friday, hein, le vendredi noir, que je vois passer dans mes fils d'actualités technologiques depuis quelques semaines. Beaucoup de spéciaux dans les magasins. C'est vraiment un moment très, très fort au niveau des ventes, j'imagine. Alors, la première fois que le mot Black Friday aurait été utilisé, ça date de septembre 1869. Et c'était pour désigner un crash financier aux États-Unis dû aux manipulations de deux hommes d'affaires pour faire monter de manière agressive le prix de l'or. Alors, si la catastrophe avait été évitée de justesse par le gouvernement américain de l'époque, l'expression, elle, est restée. Alors, c'est au milieu des années 1960 qu'elle est revenue en force pour désigner cette fois-ci les embouteillages, aussi bien sur les routes que dans les magasins, se déroulant le lendemain de la fête de Thanksgiving, qui tombe toujours un vendredi. Il y a des congés aux États-Unis. Je regarde quand tombe le Thanksgiving. C'est toujours le quatrième jeudi de novembre aux États-Unis. Donc, le vendredi suit le Thanksgiving, le vendredi noir, qui est toujours un vendredi. Au Canada, le Thanksgiving, c'est célébré le deuxième lundi d'octobre. Bon, on appelle ça l'action de grâce ici au Canada. Toujours intéressant. Alors, bonnes emplettes, faites attention, ne dépensons pas trop, hein, en ces temps difficiles. Essayons d'être éco-responsables, dit le gars qui essaie d'être éco-responsable, mais qui dépense comme tout le monde. Hein? C'est sûr que c'est le temps des fêtes, puis il y a des bons spéciaux, mais allons-y modérément. Hein? Alors, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Oups! Vos photos iCloud peuvent apparaître sur le PC d'un inconnu. Oh là là, c'est pas un petit bug ça. Hein? Il y a des utilisateurs qui se plaignent sur les forums de MacRumors qu'il y a des problèmes avec le service de synchronisation des données d'Apple. L'application qui s'intègre à l'explorateur de fichiers de Windows permet normalement de retrouver des contenus comme des photos, vidéos ou fichiers sur un ordinateur. Un outil pratique est similaire à d'autres solutions comme Google Drive. On a parlé la semaine passée, là, dans la dernière version de iCloud for Windows, pour Windows, c'était possible de synchroniser nos photos de iPhone, de iPad, directement dans les applications de photos de Windows. C'est nouveau. Alors, ces utilisateurs indiquent que la synchronisation ne s'effectue pas correctement depuis quelques jours. Les vidéos capturées depuis un iPhone, puis synchronisées avec la cloud pour Windows, arrivent corrompues sur leur machine. Alors, il y a un écran noir ou des bandes noires qui rendent les vidéos illisibles. Bon, ça, en autant qu'on a l'original de ces fichiers-là, c'est pas trop grave. Mais bon, ce qui est plus inquiétant, c'est que certains utilisateurs se retrouvent avec des photos et des vidéos qui ne leur appartiennent pas. Elles se synchronisent sur leur machine Windows, ce qui n'est pas de nature à rassurer les adeptes d'iCloud. Alors, je cite un utilisateur, on m'a montré des photos de famille d'autres personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d'utiliser iCloud en toute sécurité. Le problème semble surtout toucher les propriétaires d'iPhone 13 Pro ou iPhone 14 Pro qui ont filmé en HDR et HEVC, ce sont des formats. Le fait de supprimer et de réinstaller l'application iCloud ne semble pas résoudre le problème. Cela suggère que le bug se situe bien du côté du serveur d'Apple, affectant à la fois Windows 10 et Windows 11. Alors, alerté, Apple devrait rapidement se pencher sur le problème et le corriger. En attendant, il reste possible de désactiver la synchronisation de la photothèque iCloud. Il faut pour cela se rendre dans les réglages de votre appareil iOS ou iPadOS. Vous allez dans les réglages, vous cliquez sur votre image de profil et vous sélectionnez iCloud et ensuite photo. Mais là, selon l'article, ce bug n'a pas de lien avec la récente intégration d'iCloud dans l'application photo de Windows. Donc, ce n'est pas du côté de Windows le problème, c'est du côté de Apple. Comment Spotify veut faire de tout le monde un podcaster? Pour Spotify, n'importe qui peut créer un podcast, et surtout de n'importe où. Mais tout le monde ne possède pas forcément un matériel sophistiqué et la réalisation d'un enregistrement avec votre téléphone intelligent depuis un lieu bruyant peut aboutir à un podcast incompréhensible. Très important quand même la qualité audio d'un podcast. C'est pour résoudre ce problème que Spotify dote sa plateforme gratuite Anchor. Pour ceux qui ne connaissent pas, A-N-C-H-O-R, d'une fonction bien pratique. Dans l'appli pour Android et iOS, un nouveau bouton fait son apparition pour améliorer votre enregistrement. Et bien, en touchant ce bouton, vous activez la fonction Enhance, améliorer en français, qui améliore la voix captée par le micro de votre appareil mobile et élimine les bruits indésirables qui nuisent à sa clarté. Spotify indique que la fonction se révèle efficace pour supprimer les bruits issus, exemple, d'un café, du métro, voire même ceux de chiens en train d'aboyer ou de bébés en train de crier en arrière-plan. La bonne nouvelle est que la fonction est gratuite, ça c'est cool. Il suffit de télécharger l'appli Anchor pour en bénéficier et vous pouvez l'activer ou la désactiver lors de l'écoute pour évaluer son efficacité. Celle-ci permet aussi de découper votre enregistrement, voire d'ajouter de la musique de fond. C'est très bien. Avec Anchor acheté en 2019 pour plus de 150 millions de dollars quand même, Spotify poursuit son investissement dans le domaine des podcasts malgré la polémique qui a eu lieu en début d'année au sujet des propos racistes de Joe Rogan. Alors, les trois prochaines actualités sont au sujet de Twitter. Et oui, encore une fois cette semaine, M. Musk fait la une. La semaine passée, on avait parlé que bon, il avait donné un ultimatum à ses employés, envoyant un courriel en disant, écoutez, si vous voulez faire partie du nouveau Twitter 2.0, hein, vous avez jusqu'à 17h pour vous accepter, répondre oui, sinon, eh bien, je vais accepter votre démission. Eh bien, je ne sais pas s'il a été surpris, M. Musk, mais il y a eu des centaines d'employés qui ont décidé de démissionner, disant qu'ils ne voulaient pas faire partie de cette nouvelle entreprise. Alors, je cite un des employés, « C'est comme si toutes les personnes qui ont rendu cet endroit incroyable partent. Il sera extrêmement difficile pour Twitter de se remettre d'ici, peu importe à quel point les personnes qui restent essaient d'être inconditionnelles. » Effectivement, il y a plusieurs équipes critiques au sein de Twitter qui ont maintenant complètement ou presque complètement démissionné. Ont déclaré d'autres employés qui ont demandé l'anonymat pour parler sans la permission de M. Musk. Cela inclut le trafic de Twitter et les équipes frontales qui acheminent les demandes d'ingénierie vers les bons services au niveau du back-end. L'équipe qui gère les bibliothèques du système de base de Twitter que chaque ingénieur de l'entreprise utilise a également disparu. Vous ne pouvez pas gérer Twitter sans cette équipe, a déclaré un employé qui partait. Et plusieurs membres de l'équipe Command Center de Twitter, un groupe d'ingénieurs qui est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui sert de centre d'échange pour les problèmes internes, ont également tweeté leur départ. Et je les cite, « S'ils tombent en panne, il n'y a plus personne à appeler quand la merde se brise. » Quel drôle de dénoncé. Et bref, dans un tweet, M. Musk a déclaré que les meilleures personnes restent, donc je ne suis pas super inquiet. Eh bien, cher M. Musk, je vous souhaite bonne chance. Twitter, Elon Musk propose l'amnistie à tous les comptes bannis. Ah, M. Musk, encore cette semaine, que vous nous donnez de bons, de bonnes actualités. Alors, M. Musk poursuit sa stratégie de démocratie de comptoir sur Twitter avec un nouveau sondage. Oui, effectivement. Il se lève un matin, il décide, on va faire un sondage. Alors, je cite, « Twitter devrait-il faire une amnistie générale pour permettre aux comptes bannis de revenir, à condition qu'ils n'ont pas fait une entorse à la loi ou se sont engagés dans du spam odieux? » C'est ce qu'a demandé M. Musk. Eh bien, 12 heures après son sondage initial, la réponse semble sans appel avec plus de 72 % pour le oui. Dans un autre sondage cette semaine, un peu plus tôt, Elon Musk avait demandé si Donald Trump devait revenir sur Twitter. Eh bien, le oui l'avait emporté de peu sur le non. À peu près 53 % je crois, pour le oui. Ce qui avait conduit Elon Musk à respecter sa promesse et de restaurer le compte de Donald Trump. Pourtant, ce n'était pas la manière dont Elon Musk avait promis de faire les choses. D'ailleurs, M. Trump, je pense qu'il a annoncé cette semaine qu'il n'est pas intéressé de revenir sur la plateforme. Il a déjà sa propre plateforme. Très vite après son rachat de Twitter, Elon Musk avait assuré qu'il mettrait en place un conseil qui prendrait des décisions de maintenir des blocages ou faire revenir des comptes sur la plateforme. Une promesse depuis abandonnée au profit de cette façon très personnelle de changer les choses sur le réseau social. Mais Twitter, c'est son jouet. C'est à lui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout le paradoxe, c'est que le principal produit de Twitter avant l'arrivée d'Elon Musk, c'était la modération. Ça permettait de créer un certain niveau de confiance tant pour les utilisateurs de Twitter que les annonceurs. Avec son arrivée, Elon Musk jette visiblement tout cela par la fenêtre au risque de rendre le réseau social si toxique que ce dernier pourrait ne devenir qu'une sorte de Parler ou de Truth Social. Hein? Truth Social étant le réseau social de Donald Trump. Parler est un autre réseau fortement, avec des utilisateurs fortement à la droite, qui adore M. Trump. Mais bon, précédemment, Elon Musk avait parlé d'implémenter aussi des mods dans Twitter. Par défaut, l'expérience promettait d'être assez policée. Les tweets, les publications de Twitter faisant la promotion de la haine étant cachées. Mais les plus téméraires pourraient, en théorie, changer le mode pour voir 100% des tweets de la plateforme. Est-ce que c'est une bonne solution? Reste que des questions se posent, et pas seulement en Europe, sur les capacités actuelles de Twitter à effectuer sa mission de modération. Après plus de 3700 licenciements, en effet, il semble que les équipes de modération ne sont plus suffisantes pour que Twitter puisse se plier à ses obligations dans tous les pays où le réseau social est disponible. Et la dernière actualité pour Twitter, le chiffrement de bout en bout arrive dans les messages privés. Ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Alors, on apprend que Twitter n'aurait pas abandonné l'idée de chiffrer de bout en bout les messages privés échangés sur la plateforme. C'est la spécialiste en cybersécurité Jane Manchong-Wong qui a découvert la chose dans la dernière mise à jour de l'application. En effet, selon les données repérées par Mme Wong, la fonctionnalité serait en cours de développement chez Twitter, une fonctionnalité qui semble être confirmée par le nouveau CEO de Twitter, à savoir M. Musk, lequel a répondu au tweet par un petit clin d'œil qui semble corroborer la rumeur. Et ce que j'ai lu aussi, il semble qu'il a approché quelqu'un de chez Signal pour avoir une collaboration, pour être capable d'utiliser la même technologie que Signal, l'application de messagerie privée, pour être capable de réutiliser la même chose chez Twitter pour les messages privés. Déjà à l'œuvre sur d'autres applications comme WhatsApp, Signal, le chiffrement de bout en bout permet de garantir des échanges sécurisés car totalement indéchiffrables. Ce système empêche quiconque d'accéder aux clés cryptographiques nécessaires pour déchiffrer une conversation. Post. Quel est ce nouveau réseau social qui veut remplacer Twitter? Ces temps-ci, il y en a beaucoup. Il y a Post. Il y a un nouveau aussi, Hive, que je ne connais pas, et on a bien sûr un Mastodon. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts d'Elon Musk à la tête de Twitter sont très agités et compliqués. Dans ce tumulte, certains cherchent un refuge alternatif. Beaucoup pensent l'avoir trouvé avec Mastodon, la plateforme décentralisée. Bon, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça aussi un peu compliqué. L'histoire de choisir l'instance avant de créer son compte. Eh bien, selon l'article, la solution pourrait venir d'un autre service concurrent lancé par Naum Barden, qui, M. Barden est l'ancien président de Waze, le logiciel de navigation, qui a quitté son poste l'an dernier. Bien, il vient de lancer Post, un réseau social qui entend créer un lieu pour débattre des idées, apprendre des experts, des journalistes, des créateurs individuels, et les uns des autres, converser librement et s'amuser. C'est des bons vœux. Alors, je cite M. Barden, « Vous vous souvenez quand les réseaux sociaux étaient amusants, qu'ils vous faisaient découvrir de grandes idées, des gens sympas et qu'ils vous rendaient plus intelligents? Vous vous souvenez de l'époque où ils ne vous faisaient pas perdre votre temps, vous mettaient en colère ou vous rendaient triste? » Quand vous pouviez être en désaccord avec quelqu'un sans être menacé ou insulté, eh bien, c'est ce que nous voulons vous faire revivre avec Post. Alors, comment le service compte-t-il s'y prendre pour tenir parole? Eh bien, la principale nouveauté consiste dans le fait qu'il sera possible de poster des publications de tout type de longueur, et ce, sans aucune limite. Sur le papier, cette option est séduisante et elle offre donc une alternative aux threads parfois illisibles que l'on peut voir sur Twitter. Post veut aussi aider les créateurs à monétiser leur travail. On pourra ainsi donner des pourboires aux utilisateurs qui nous paraissent les plus pertinents. Autre moyen de générer de l'argent sur Post, la mise en vente d'articles produits par des utilisateurs premium qui sont censés apporter une valeur ajoutée. Mais il reste une question de taille pour tout réseau social qui veut devenir massif. C'est la modération. Pour l'instant, Post promet la mise en place de règles rigoureusement appliquées avec l'aide de sa communauté. Mais pour rassurer ses utilisateurs soucieux de la liberté d'expression, il indique aussi qu'il s'opposera à toute tentative gouvernementale de censurer les discours. Mais reste à savoir si la formule sera gagnante. On sait en effet qu'il existe un public désireux de trouver une alternative à Twitter. Mais remplacer un réseau social de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, ce n'est pas une chose aisée. Et pour un bon nombre d'internautes, renoncer à tous ces liens sociaux noués au fil des années, ce n'est pas évident. Pour l'heure, Post est accessible sur liste d'attente et pas moins de 125 000 inscriptions avaient été enregistrées dimanche soir. J'ai reçu un courriel, je me suis inscrit à la liste d'attente et je pense que ce matin, il était rendu à 200 quelques mille inscriptions. Alors, ça va être intéressant de suivre ça de près. Mark Zuckerberg va-t-il vraiment quitter Meta l'année prochaine? Eh bien, après avoir bâti un empire controversé avec Facebook, puis élargi ses horizons en imaginant le futur de la réalité virtuelle et du métavers, M. Zuckerberg va-t-il tout quitter pour se lancer dans ses propres projets? Eh bien, depuis plusieurs heures, plusieurs jours, une rumeur persistante publiée pour la première fois sur The Leak annonçait le départ imminent du PDG historique du GAFAM, citant une source anonyme, mais a priori bien informée. Une annonce qui tombe mal pour l'entreprise, déjà malmenée par l'opinion publique. À l'heure où les géants du web connaissent une crise sans précédent, précipitée par des licenciements massifs et la récente prise de pouvoir d'Elon Musk à la tête de Twitter, le départ de Mark Zuckerberg sonne comme une énième aveu de faiblesse. Depuis la publication de l'article en question, la valeur boursière de Facebook a d'ailleurs chuté de manière spectaculaire à raison de 11 milliards de dollars en moins de 24 heures, rapportait le magazine Forbes. Sans doute pour contrer la dégringolade de ses actions, eh bien Meta a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux en démentant fermement les rumeurs d'un départ. Officiellement, Mark Zuckerberg n'a jamais prévu de quitter son poste. Ce n'est pourtant pas la première fois que de telles rumeurs sont mises sur le devant de la scène. En novembre dernier, il y a tout juste un an, la lanceuse d'alerte Frances Haugen, à l'origine des Facebook Files, avait déjà émis la possibilité d'un départ, estimant que l'entreprise gagnerait à placer à sa tête un dirigeant davantage concerné par les questions de sécurité et de vie privée. En 2020, une lettre ouverte signée par le milliardaire hongro-américain George Soros dans le Financial Times appelait ouvertement Mark Zuckerberg à démissionner, un projet que le principal intéressé a toujours réfuté. arguant lors de ses rares interviews que cela ne faisait pas partie du plan. Reste à voir comment Meta réussira à rester compétitif dans un monde de plus en plus impitoyable où l'entreprise peine à convaincre de son engagement pour le futur.
Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, serait-il un échec? Amazon traverse une zone de turbulence et les regards se tournent vers Alexa, l'assistant vocal jugé trop coûteux et décrit comme un échec colossal par un ancien employé. Portée un temps par Jeff Bezos en personne, Alexa fait partie de la division Worldwide Digital, qui comprend aussi les appareils Echo et le service de streaming Prime Video. Bien, Worldwide Digital a perdu 3 milliards de dollars au premier trimestre 2022 et la grande majorité des pertes était liée à Alexa. Selon un employé de la firme, cette division hardware matériel devrait enregistrer environ 10 milliards de dollars de pertes cette année. Oh là là! Une longue enquête de Business Insider revient sur la situation d'Alexa, s'appuyant sur les témoignages d'anciens et actuels employés du groupe. Tous parlent sous couvert d'anonymat et le constat est sans appel. Alexa est un échec cuisant. Outre les difficultés financières, un ancien employé qualifie l'assistant d'échec colossal de l'imagination et définit le projet comme une opportunité gâchée. À son lancement en 2014, Alexa était pourtant pleine de promesses et perçue comme une solution d'avenir. Malgré le succès des premiers appareils et le soutien de Jeff Bezos, l'assistant n'a pas répondu à l'objectif que la firme s'était fixé. Connu pour son activité d'e-commerce, Amazon ambitionnait de se faire une place dans les foyers pour pousser les utilisateurs à commander via l'assistant vocal. C'est ce qui explique la décision de proposer ces appareils à des prix très attractifs. Nous voulons faire de l'argent quand les gens utilisent nos appareils, pas quand ils achètent nos appareils, peut-on lire dans un document interne. Aujourd'hui, les appareils dotés d'Alexa sont sollicités pour des commandes de base comme la météo, jouer de la musique, mais ça ne rapporte rien à Amazon. Alors Amazon se demande aujourd'hui ce qu'il doit faire avec Alexa. Le projet coûte cher et la firme ne semble pas savoir quel chemin prendre. Comme l'explique cet employé, je le cite, « Il n'y a pas de directive claire pour les appareils. Qu'essayons-nous de faire? D'être les meilleurs, les moins chers? » Près d'une décennie plus tard, force est de constater que les assistants occupent un rôle marginal. Microsoft a fini par couper le sifflet à Cortana, tandis qu'Apple peine à convaincre avec Siri. Alexa et surtout Google Assistant s'en sont mieux sortis, mais on constate que la situation est loin d'être rose. Microsoft Teams. Alors, il y a des jeux qui sont arrivés. Les réunions vont vraiment être interminables. C'est bien connu. Entre amis ou en famille, une séance de jeu crée du lien. Microsoft se propose donc de favoriser les bonnes relations de travail avec vos collègues en lançant une série de jeux accessibles dans Teams, l'application de communication de Microsoft. On ne peut qu'être d'accord avec Jill Braff, qui est directrice de l'intégration et du casual gaming chez Microsoft, quand elle affirme que jouer entre collègues est un bon moyen de favoriser les relations et la collaboration. Elle va jusqu'à avancer que selon une étude scientifique, les équipes qui s'adonnent à de courtes séances de jeux vidéo sont 20% plus productives que les autres. Mais cela dit, il est hors de question de jouer à Fortnite ou autre FPS. Pour unifier nos équipes, Microsoft nous propose d'utiliser une application appelée Games for Work. Il est vrai que la crise de la COVID et l'avènement du télétravail ont fait perdre plein de choses au niveau des relations professionnelles. Les discussions informelles à la machine à café, les relations plus ou moins amicales entre collègues, nos relations professionnelles se sont appauvries. Jouer même en réseau peut donc être un bon moyen d'entretenir l'esprit de collaboration et une saine émulation dans une équipe de collaborateurs. Les applications ludiques proposées par Microsoft sont intégrées dans Teams et chacun met l'accent sur un aspect différent de ce qu'on appelle en termes managériaux le « team building ». 4 jeux sont accessibles. Bon, il y a Microsoft Icebreakers, qui est un quiz qui sert à briser la glace et à faire connaissance. Il y a Wordament, qui est un jeu de lettres dans lequel il faut composer le plus de mots possible avec des lettres contiguës. Ensuite, il y a le jeu Solitaire, qui est un jeu de cartes qu'on n'a pas besoin de présenter. Tandis que Minesweeper est le mythique des mineurs, est le jeu qui profite le plus de son passage en multijoueur. Car oui, la particularité de cette suite de jeux est qu'elle se joue à plusieurs. Il est possible de faire participer de 2 à 250 collègues en simultané. Game for Works est gratuit. Il est disponible dans Microsoft Teams, que ce soit dans sa version web ou dans les applications iOS et Android. On revient avec Microsoft Teams, qui déploie une fonctionnalité destinée aux personnes malentendantes. La firme dont le siège social est installé à Redmond est revenue à la charge avec une nouvelle fonctionnalité qui est décrite comme étant une nouvelle vue en langue de signes. Comment rendre l'usage d'une application le plus accessible possible à tous? Microsoft semble avoir résolu cette équation avec la nouvelle fonction d'accessibilité de Teams. La dite fonction permettra aux utilisateurs de langue de signes de sélectionner jusqu'à 2 vidéos d'autres participants, ce qui devrait leur permettre d'accéder aux vidéos des interprètes en langue de signes tout au long de la réunion. Pour en profiter, les utilisateurs de Teams devront tout simplement activer cette fonction lors de leur réunion. Mais les bénéfices liés à la nouvelle vue en langue de signes de Microsoft Teams seront également non négligeables pour les interprètes gestuels. Ceux-ci pourront par exemple être affectés avant le début d'une réunion s'ils font partie de l'entreprise. Quant à ceux qui évoluent en externe, ils pourront être affectés en cours de réunion à partir de l'onglet « Accessibilité » dans les paramètres de l'application. Mais attention, il est important de préciser que Microsoft ne fournit pas d'interprète en langue de signes sur Teams. En plus de la nouvelle fonction d'accessibilité qui facilitera le travail des interprètes et l'expérience des utilisateurs malentendants sur Teams, l'entreprise a pensé aussi à la refonte du volet de préférence d'accessibilité. Pour faire simple, Microsoft a fluidifié encore plus l'accès aux paramètres de base. Le nouveau volet permettra par exemple à ses utilisateurs d'accéder facilement pendant les appels à des modifications telles que l'activation par défaut de l'affichage en langue des signes et l'identification au préalable des interprètes périphériques. De même, l'affichage en langue des signes et les sous-titres en direct pourront être rapidement activés ou désactivés depuis le nouveau volet. C'est qu'il est intéressant de souligner et que la vue en langue des signes n'affectera aucunement ce que les autres participants pourront apercevoir à l'écran. Cette nouvelle vue en langue des signes et le nouveau volet d'accessibilité sont d'ores et déjà disponibles pour l'essai. Les utilisateurs malentendants pourront alors l'activer personnellement depuis leur application mobile et à n'importe quel moment en cours de réunion. Des PS5 pourraient être intégrés aux prochaines voitures Honda. En septembre 2022, Sony et Honda s'associaient dans la création du concept Sony Honda Mobility, un projet étonnant qui avait pour principal but la création de nouveaux véhicules électriques centrés autour d'un thème spécifique, le divertissement. Bien entendu, lorsque l'on parle de divertissement chez Sony, on pense forcément à la musique, au cinéma, mais aussi et surtout aux jeux vidéo avec PlayStation. Selon Izumi Kawanishi, le président de Sony Honda Mobility, l'intégration des jeux vidéo et des PS5 dans les futurs véhicules est bien à l'étude. Au cours d'une récente interview accordée au site Financial Times, Izumi Kawanishi, le président du projet, a confirmé, et je cite, « Sony possède des contenus, des services et des technologies de divertissement qui font bouger les gens. De ce fait, Honda compte bien adapter cela au projet Sony Honda Mobility pour constituer une grande force face à Tesla. » Ce qui pourrait faire la différence, selon Kawanishi, c'est la PS5 qui est une véritable console de jeux vidéo mondialement reconnue, tandis que Tesla souhaite concevoir sa propre plateforme de gaming pour l'inclure dans ses voitures. Toujours selon Izumi Kawanishi, il est technologiquement possible d'intégrer une PS5 au futur modèle de véhicule Honda. En revanche, il ne faudra pas attendre cette collaboration pour tout de suite. Le projet Sony Honda Mobility, qui a été officialisé en septembre dernier, ne devrait pas voir le jour avant 2025 dans le meilleur des cas. D'ici là, d'autres variantes de PS5 pourraient voir le jour. Alors, parlant de PS5, eh bien, est-ce que la PS5 pourrait bientôt être remplacée par la PS6? Alors que la console dernière génération de Sony n'est pas encore disponible partout dans le monde, que la firme pense déjà à la commercialisation de sa PS6. C'est dans un document officiel qu'une fenêtre de sortie vient d'être mentionnée. Dans un des documents, on peut lire que Sony s'attend à ce que Call of Duty ne soit plus disponible d'ici 2027 sur ses consoles PlayStation, date à laquelle devrait sortir la PS6. La société prédit donc la perte des accès à la franchise dès le passage à la prochaine génération. Outre la véracité ou non de cette affirmation, on apprend que Sony compte faire vivre sa PS5 encore 5 bonnes années avant de penser à commercialiser la PS6. Cela signifie que la console actuelle aurait un cycle de vie de 7 ans environ, ce qui reste tout à fait standard. Ça fait déjà 2 ans que la PS5 est sur le marché et nous n'avons pas encore entendu parler d'une PS5 Slim et encore moins d'une PS5 Pro. Alors, au tiers de sa durée de vie, la plateforme ne devrait pas tarder à nous dévoiler quelques surprises. En attendant, la guerre entre Microsoft et PlayStation continue de faire des siennes, alors même que Microsoft fait tout son possible pour rassurer son rival. Les inquiétudes de Sony semblent loin d'être justifiées alors qu'un contrat d'une durée de 10 ans lui a été proposé pour garder Call of Duty sur ses consoles et que Microsoft a dit à maintes reprises que le FPS resterait sur PlayStation tant que la société continuerait de produire des consoles. Le détecteur de deepfake d'Intel est précis à 96% pour le moment. Avec l'essor actuel de l'intelligence artificielle, les deepfakes, ces trucages numériques basés sur l'intelligence artificielle qui remplacent la voix ou le visage d'une célébrité dans un extrait vidéo ou audio, représentent une source d'inquiétude légitime. Cette situation a conduit certains grands noms de l'intelligence artificielle à développer des programmes spécialisés dans la détection de ces deepfakes. Aujourd'hui, c'est au tour d'Intel de présenter ses avancées dans ce domaine. La firme américaine vient de déclarer que son programme baptisé Fake Catcher était capable d'identifier la quasi-totalité des deepfakes vidéo, et ce en temps réel, une évolution considérable par rapport aux autres systèmes actuels. S'il est aussi performant, c'est parce qu'il se base sur une méthode assez différente des algorithmes de détection traditionnels. Généralement, ces derniers décortiquent les données brutes qui composent la vidéo sans vraiment s'intéresser à la succession des images à proprement parler. Fake Catcher, en revanche, utilise une approche basée sur la photoplétismographie. Ce terme désigne une méthode d'exploration vasculaire non-invasive. Elle consiste à éclairer un tissu vivant, puis à mesurer la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par les vaisseaux sanguins et leur contenu. On peut alors en tirer des informations sur la circulation sanguine. C'est d'ailleurs grâce à cette technique que certains appareils, comme les montres connectées, sont capables de déterminer votre fréquence cardiaque. Les chercheurs d'Intel, de leur côté, ont eu l'idée d'utiliser ce concept dans le cadre de la chasse aux deepfakes. À l'aide d'outils algorithmiques très élaborés, il est possible de repérer de minuscules variations de teinte indétectables pour l'œil humain qui sont directement liées à la façon dont le sang circule dans le visage. Mises bout à bout, toutes ces différences constituent donc une sorte de signature unique. Cette dernière peut être synthétisée sous la forme d'une carte spatio-temporelle qui décrit les changements de teinte en fonction du temps. Alors, les troupes d'Intel affirment que ces systèmes fonctionnent dans 96% des cas. Et ce qui rend ce chiffre encore plus impressionnant, c'est que, contrairement à ce que suggère l'intuition, il est excessivement rapide. Fake Catcher a besoin de quelques millisecondes à peine pour identifier un deepfake. On peut donc parler de détection en temps réel, ce qui est une grande première dans ce domaine selon la firme. Cette vitesse de fonctionnement a permis à Intel d'héberger son programme sur un serveur standard accessible depuis le web, une considération importante lorsqu'il s'agit d'utiliser un système de ce genre en conditions réelles. Alors, sa principale limite, c'est qu'il exploite le relatif manque de précision des deepfakes actuels. Plus les algorithmes qui permettent de les créer deviendront performants, plus les changements subtils comme ces fameuses variations de teinte associées à la circulation sanguine seront intégrés aux vidéos truquées. Cette approche ne fonctionnera donc pas indéfiniment. Il va falloir continuer à trouver de nouvelles pistes pour différencier le vrai du faux, jusqu'à ce que les deepfakes progressent à nouveau, et ainsi de suite. Un nouveau supercalculateur voit le jour en Europe. L'Europe compte un nouveau supercalculateur dans le top 5 mondial, Leonardo, mis au point par Atos, pointe désormais à la quatrième position sous les couleurs italiennes, derrière le Lumi finlandais, le Fugaku japonais et le Frontier américain bon premier. Sa puissance de calcul qui se base sur l'intelligence artificielle atteint 250 petaflops lorsqu'il sera complet, soit 250 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. C'est assez rapide. Le supercalculateur qui soutient la mission de souveraineté de l'Union européenne va servir dans les situations d'urgence environnementale et médicale. Dans le détail, ses capacités de calcul seront mises à contribution pour l'atténuation et la gestion des risques dus aux situations extrêmes comme des événements naturels, des séismes, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou encore des crues éclairs. Ces événements nécessitent des modélisations scientifiques très complexes que seuls les supercalculateurs comme Leonardo sont capables d'accomplir. Techniquement parlant, le système est impressionnant. Leonardo est basé sur des nœuds Bull-Sequana XH2000 d'Atos, chacun doté de 4 GPU NVIDIA A100 Tensor Core, beaucoup de détails, et d'un processeur Xeon Scalable d'Intel. En tout, le supercalculateur compte 3500 CPU Xeon et 14000 GPU NVIDIA, GPU étant un processeur graphique. De la mémoire vive, DDR5 de Micron offre la bande passante nécessaire pour répondre aux contraintes de calcul à haute intensité. Alors, l'accès à Leonardo a été retardé à cause de la crise sanitaire, mais l'infrastructure a finalement pu être fournie au mois de juillet. Ce sont plus de 155 racks qui ont été livrés et mis en réseau pour effectuer les tests initiaux. Petite découverte cette semaine pour vous. J'ai trouvé quelque chose cette semaine. J'en ai parlé dernièrement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de bien. Je parle de la compagnie Rode. Si vous ne connaissez pas la compagnie, ils font des microphones, des appareils audio de très haute qualité pour les professionnels. Il y en a d'autres compagnies aussi, Shure, qui font des très bons appareils. Mais bref, Rode font des très bons microphones. Et dernièrement, ils ont sorti un concept, même une division chez Rode. Ils ont créé leur propre site web. Cette division-là, c'est rodex.com, R-O-D-E-X.com. Je vais mettre tous les liens dans le document de l'émission. Alors, qu'est-ce que RodeX propose? RodeX propose deux types de microphones et une console de mixage logiciel. Il est à noter qu'ils ont sorti ça uniquement pour les plateformes Windows sur PC. Il n'y a pas de produit, il y a pas de logiciel, ne fonctionne pas sur... si vous avez un Apple Mac, ça ne fonctionne pas. Eux, ils visent vraiment bon, les joueurs, les gamers, ceux qui font des streams, des émissions diffusées, les balados diffuseurs, les podcasters, ils visent vraiment ce marché-là. Mais c'est vraiment génial comme principe. Je vais vous décrire les deux microphones. Il y a un microphone, un petit microphone qui a un petit look un peu carré. C'est un microphone à condensateur. C'est le XCM50. Et c'est un microphone qui se vend à peu près 200$, 199$ canadiens. Alors, c'est relativement... En tout cas, bref, vous allez voir qu'à un moment donné, ça peut coûter des sous, les microphones. Quand vous commencez à compter le microphone, la console, le physique et tout ça, ça monte assez vite. Le deuxième microphone, c'est un petit peu plus gros. C'est le XDM100. C'est un microphone dynamique. Donc, si vous avez beaucoup de bruit ambiant, c'est préférable des fois d'avoir un microphone dynamique parce que ces microphones-là vont moins capter les bruits ambiants. Et il se vend à 339 canadiens. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces microphones-là? À noter, ce sont deux microphones avec des connexions USB seulement. Il n'y a pas de connexion XLR. Mais l'avantage des microphones USB, vous avez même une prise d'écouteurs que vous pouvez brancher directement vos écouteurs dans le microphone pour vous entendre parler en mode, en temps réel. Donc, ces microphones-là, les deux sont équipés de ces prises d'écouteurs-là. Mais ce qui est la force de ces écouteurs-là, c'est que tous les effets qu'on retrouve normalement dans une console physique, exemple, le limiteur de bruit, ou le noise gate qu'on dit en anglais, la compression, compressor, plein de choses, plein d'autres effets qu'on retrouve normalement sur des consoles assez professionnelles, se retrouvent dans ces microphones-là intégrés dedans. Fait que vous n'avez pas besoin d'autres choses. Et le logiciel qui vient avec ces microphones-là, quand vous achetez un ou l'autre des microphones, vous avez droit d'utiliser une console de Rode qui s'appelle Unify, qui est un logiciel que vous installez dans votre PC et ça vous donne une console virtuelle avec plein de pistes. Je ne me souviens plus du nombre de pistes virtuelles qu'il peut avoir. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 microphones. D'ailleurs, ce logiciel-là, bon, il est utilisable seulement par abonnement. Mais si vous avez acheté un des deux microphones, c'est gratuit. Et ce qui, je l'ai installé, le logiciel, parce que et je trouve qu'il ressemble vraiment au look, à l'interface de la console physique de Rode, la Rodecaster Pro. Ils sont vraiment basés là-dessus. Je trouve ça bien comme produit. Mais bref, la console vous permet de faire le routage de l'audio vraiment très puissante. Routage, exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous faites une émission sur Twitch, peu importe. Vous avez de la musique, jouez de la musique. Vous voulez pas l'entendre. Vous voulez l'entendre moins fort dans vos écouteurs, okay, mais vous voulez que Twitch l'entende d'un certain niveau. Bien, vous pouvez simplement reconfigurer le routage pour vos écouteurs et dire, regarde, la piste de musique, moi, je veux l'entendre moins fort. Ou à la limite, le son du jeu, je veux l'entendre moins fort, juste pour moi, dans mes écouteurs. La console vous permet de faire ça. Permet en plus d'enregistrer. Si vous voulez enregistrer votre émission, donc vous faites de la balado ou du podcasting, c'est génial. Vous avez deux options. Vous pouvez enregistrer seulement le mix qui est en mode stéréo. La console va vous générer un fichier. Ou en mode multipiste, vous voulez avoir plusieurs fichiers. Et on gardait exactement le même principe que la Rodecaster Pro. Si vous avez. Quand ça génère le mix. Vous avez le choix aussi d'utiliser la normalisation de l'audio, qui est un standard, en tout cas au niveau de la radio, du podcasting, de la télé, tout ça. Il y a des standards différents. Exemple, pour le podcasting, bon, on va parler d'un LUFS. Ça s'appelle des LUFS, non pas des décibels. Alors, c'est moins 16 dB pour le podcasting. La radio, ils ont d'autres chiffres. Ça vous permet de normaliser l'audio de votre enregistrement directement à partir du logiciel. Fait que je trouve que c'est quand même une bonne chose. Moi, pourquoi je l'ai installé? Je voulais l'essayer. On peut la télécharger, mais pour l'utiliser, il faut avoir un abonnement. Et l'abonnement, si on a les deux microphones que je vous ai parlé, c'est gratuit. Mais si on a d'autres microphones, et même si c'est un Rode, hein, si c'est pas ces deux microphones-là, ça fonctionnera pas. Il faut que vous ayez un abonnement qui est à peu près, je voudrais, 50 à 60 $ canadiens par année, une couple de dollars par mois. Et si vous avez l'abonnement, bien, vous allez pouvoir utiliser votre microphone que vous avez, mais là, sachez que vous aurez sûrement pas les effets que je vous ai parlé, qui, eux, sont inclus dans le matériel des deux microphones. Mais je vous dis ça parce que pour le Black Friday, le Vendredi Noir, jusqu'au 30 novembre, la compagnie Rode le propose à 1 $ australien, parce que c'est une compagnie australienne, 1 $ australien pour un an, pour 12 mois. Donc, pour quelques dollars, peut-être 2-3 dollars ou 2 dollars canadiens, vous pouvez essayer le logiciel et pour voir si vous avez un besoin. Exemple, si vous avez un PC et vous voulez vous mettre à faire, je ne sais pas moi, du podcasting, balado, je penserais sérieusement à cette solution-là. Parce que si vous commencez à évaluer le prix des microphones, le prix des effets, ce ne sont pas toutes les consoles audio physiques qui ont des effets. Ça peut monter assez rapidement. Alors, je trouve que c'est quand même relativement une solution. Pour le XCM, on parle de 200 $. Vous avez tout. Bon, il vous reste peut-être un support pour tenir votre micro. À la limite, peut-être un support de table. Mais pour 200 $, vous avez un micro de qualité avec des effets de qualité, une console que je trouve vraiment bien faite de qualité. Je trouve que c'est quand même abordable pour vous lancer dans l'audio. Alors, c'était ma découverte cette semaine. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Alors oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Une fois de plus, toute bonne chose a une fin. Mais comme je dis à toutes les semaines, soyez heureux, ne soyez pas tristes. Pourquoi? Parce que on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, bonne emplette pour le vendredi noir. Soyez raisonnables, mais portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.